Je vous inviterai à une lecture dans le premier livre des Rois, au chapitre 18 et au verset 45. 1 Roi 18, verset 45. Le ciel devint de plus en plus sombre à cause des nuages amenés par le vent, et une forte pluie se mit à tomber, tandis que le roi Akab, sur son char, rentrait à Jizréel. Élie attacha sa ceinture pour partir, et rempli de force par le Seigneur, il courut devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Le roi Akab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas fait mourir, comme tu as fait mourir ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. » Élie prit peur et, accompagné de son serviteur, il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste, un genêt. Il souhaitait mourir et dit « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je n'ai pas mieux réussi que mes ancêtres. » Puis il se coucha et s'endormit sous le genêt. Mais un ange vint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange. » Et il vit en effet près de lui un de ces pains plats que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. » Élie se leva donc pour manger et boire, puis avec la force trouvée dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors le Seigneur lui adressa la parole « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit « Seigneur Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter de voir comment les Israélites agissent. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à me tuer. » Sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne devant moi. « Je vais passer. » Aussitôt, un grand vent souffla avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un léger souffle. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter de voir comment les Israélites agissent. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me tuer. » Mais le Seigneur lui dit « Va. » Retourne par le même chemin à travers le désert et rends-toi à Damas. Tu iras y consacrer de ma part Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras consacrer Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour te succéder comme prophète. Ceux qui échapperont au jugement exercé par Hazaël seront mis à mort par Jéhu, et ceux qui échapperont au jugement exercé par Jéhu seront mis à mort par Élisée. Mais je laisserai survivre 7000 hommes du peuple d'Israël, à savoir tous ceux qui ne se seront pas mis à genoux devant le dieu Baal et n'auront pas donné des baisers à ses statues. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Mais qu'arrive-t-il à Élie, au prophète de Dieu ? Il a peur, il se sauve, il veut mourir, il se croit en échec. Élie, rempli de la puissance de l'Éternel, Élie qui vient de triompher de plus de 400 prophètes de Baal. Si Élie peut en arriver à un tel découragement, à vouloir mourir, ayant, dit-il, échoué comme ses pères, qu'en sera-t-il de nous ? qui n'avons sans doute ni sa puissance, ni sa mission. Et notre expérience n'est-elle pas aussi parfois de connaître ce même sentiment « je n'ai pas mieux réussi que les autres » ? Je vous proposerai ce matin une méditation sur le thème, sur les thèmes du découragement du croyant et de l'encouragement que Dieu prodigue à ceux qu'il aime. Nous envisagerons successivement les épreuves d'Élie et, modestement, les possibles nôtres. Nous aimons le découragement d'Élie et notre propre découragement, parfois. Troisièmement, la cause, le nœud du problème chez Élie et peut-être chez nous, parfois. Et enfin, les encouragements de Dieu. Premièrement, les épreuves. Rappelons brièvement l'histoire d'Élie jusqu'au moment où notre récit prend place. Élie s'est adressé à Acab de la part de Dieu pour lui annoncer des années de sécheresse en retour de son infidélité au Seigneur. Il a dû se cacher, d'abord près d'un torrent à l'est du Jourdain, puis s'éloigner jusqu'à Sidon, chez cette veuve de Sarepta, petite ville lointaine. Il y passe 3 ans. Dieu l'appelle ensuite à revenir vers Acab, lui annoncer la pluie, mais demander d'abord une confrontation avec tous les prophètes de Baal. Dans un épisode dramatique, Élie va faire triompher le nom et la gloire de Dieu contre ces prophètes du mal. Seul avec son Dieu, contre 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Akéra, Élie écrase les forces malignes. Élie lutte encore dans la prière pour que vienne la pluie promise. Et accompagné d'Akab, qu'il précède en courant, Élie rentre à Jizréel et la pluie violente arrive enfin après ces années de sécheresse. Élie, le prophète de l'Éternel, triomphe. Le voici consacré par cette pluie si attendue. Des épreuves donc dans sa vie, des privations, des attentes, des peurs sans doute, mais la foi toujours en œuvre et combien de victoires pour arriver à cette victoire ? Au triomphe. Mais voici que Jézabel, femme d'Acab, femme implacable, ennemie de Dieu de toutes ses forces, prévient le prophète : tu vas mourir, Élie, je vais te tuer comme tu as fait mourir les prophètes de Baal. Et voici donc Élie, ce héros, ce vainqueur, l'homme fort, prend peur et s'enfuit dans le désert. C'en est trop, il ne peut plus faire face. Celui qui courait devant le char d'Akab pour revenir à Jizréel, entouré d'une pluie glorieuse, s'enfuit discrètement, peureusement, pour sauver sa vie. C'est un homme soudain écrasé qui va s'avancer dans le désert et se trouvera caché, abrité à l'ombre d'un genêt. Nos vies ne sont pas celles d'Akab, et je doute qu'aucun de nous n'ait vécu de combat aussi spectaculaire ou aussi essentiel pour l'histoire du peuple de Dieu, de l'Église de Dieu. Mais à bien y réfléchir, le combat que mène chaque croyant, chaque chrétien contre Satan, contre le mal et pour Dieu, pour le Christ, est un combat essentiel. Dans la vie de chacun de nous se rejoue en quelque sorte l'équivalent de l'histoire d'Israël, choisi par Dieu, voulu par lui, pour lui, mené sur les bons chemins par lui. Notre révolte, puis notre acceptation, hélas, nos chutes aussi, tout cela ne reproduit-il pas le cheminement d'Israël ? Israël en Égypte, puis sorti d'Égypte, marchant avec son Dieu, mais se révoltant aussi contre lui, chutant pour revenir et s'éloigner encore. Et nos épreuves pour vivre selon la foi, notre vie de disciple, notre témoignage dans un monde hostile, indifférent, moqueur, pervers. Nos épreuves ne sont-elles pas du même ordre que les épreuves des prophètes de l'Ancien Testament, des épreuves d'Élie lui-même ? Vivre en chrétien, c'est vivre dans la sécheresse spirituelle du monde qui nous entoure. C'est ne pouvoir partager sur ce qui est pour nous le plus important, c'est être incompris. Combattre le bon combat de la foi, ce à quoi le chrétien est appelé, en soldat du Christ, c'est à proprement parler une épreuve, pénible parfois, douloureuse souvent, fatigante certainement. N'est-ce pas ce que nous ressentons parfois, et peut-être en ce moment même? Nous regardons en arrière, nous courions si bien un temps dans le passé. Nous étions pleins de zèle et d'ardeur, ne doutant pas que Dieu soit avec nous, nous sentant entourés de l'affection et de l'encouragement de nos frères et sœurs. Nous nous souvenons d'occasions où notre foi éprouvée sut avec Dieu triompher de l'adversaire, du doute, des épreuves diverses de la vie. Peut-être, pour certains parmi nous, existe-t-il aujourd'hui un combat particulier dans leur vie. Cela n'est pas anormal. C'est plutôt ne jamais connaître de lutte, de tension, de douleur qui est inquiétant. Se pourrait-il dans ce cas que l'ennemi ne voit plus en nous un adversaire qui mérite quelque attention? Plaise à Dieu que ce ne soit le cas, et que le repos et la paix que nous pouvons aussi connaître, que nous connaissons heureusement, que cela vienne de Dieu, que cela soit ce qu'il veut nous donner pour notre bien et notre joie, et non le résultat de notre apathie qui ne poserait plus problème à l'adversaire du Seigneur. Le deuxième point, le découragement. Et lui, Élie, quant à lui, ne connaît pas, lorsqu'il fuit dans le désert, le repos, la quiétude, la confiance, la paix, mais bien au contraire le découragement, la dépression, l'épuisement. Élie passe par une phase d'angoisse, de panique, même irraisonnée, même si pas sans fondement objectif. Il a une conduite d'évitement, de fuite. Il recherche la solitude, abandonnant même le soutien de son serviteur. Il est bien sûr épuisé physiquement et certainement nerveusement et moralement aussi, après des jours, des semaines de tensions, d'épreuves. Et il sombre dans une humeur bien noire, n'aspirant plus qu'à la mort. Il éprouve dans le même temps un fort sentiment d'échec. Dépression, d'épuisement serait sans doute le diagnostic que l'on porterait aujourd'hui sur la situation d'Élie. Élie dans le désert, Élie le Tishbite, homme vaillant, guerrier pour l'honneur et la gloire du seul Dieu, est maintenant un être épuisé, écrasé, persuadé d'avoir échoué et découragé, que personne ne reconnaîtrait qu'il aurait vu quelque temps avant. Élie être découragé. Entre parenthèses, la réaction d'Élie nous dit bien la vérité de ces textes et de ces personnages bibliques, qui ne sont pas des héros au sens moderne du mot. Les choses ne leur sont pas faciles. Ce n'est pas le sourire aux lèvres qu'ils franchissent toutes les épreuves. Ils ne sont pas comme ces héros de films. Élie n'a rien à voir avec Indiana Jones, où l'on voit quasiment mourant ce héros pour le retrouver quelques images plus tard, plus fort qu'avant, comme si rien ne s'était passé. Les hommes que la Bible nous présente ne sont pas comme cela. Ils sont fatigables, ils sont faillibles, ils se trompent parfois, ils pêchent, hélas, ils doutent, ils sont relevés, mais par Dieu seulement. Et c'est encore dans leur faiblesse qu'ils vont poursuivre leur chemin. Refermons cette parenthèse. Élie donc est découragé. « Reprends ma vie, Seigneur, j'en ai assez. » Je n'ai pas mieux réussi que mes ancêtres. Êtes-vous découragé? Êtes-vous déprimé? Un chrétien ne doit pas l'être, pensez-vous, pour vous-même ou pour les autres? Pensez-vous qu'il y a là un manque de foi, une faiblesse caractérisée de la vie spirituelle? Peut-être un péché même. Attention, mes amis, à ne pas penser comme et parler comme les amis de Job. Toute faiblesse, tout passage dépressif, toute angoisse, tout découragement n'est pas forcément secondaire à un péché, à une révolte contre Dieu ou à un manque de foi. Élie est-il répréhensible? Dieu le reprend-il ou l'encourage-t-il? Nous y reviendrons dans un instant. Le chrétien peut connaître, il connaît le découragement. Il connaît ces moments où tout semble perdu, où ses efforts n'ont mené apparemment à rien. Il ne peut vivre comme cela, rester dans cette attitude. Une telle position n'est pas bonne, mais elle peut venir en lui et il lui faut s'armer contre elle. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas ? C'est parfois, comme pour Élie, sur un mode aigu qu'un tel sentiment se manifeste douloureusement, dramatiquement. Parfois, à l'inverse, c'est sur un mode plus discret, atténué, mais néanmoins douloureux, que le chrétien se voit ainsi inutile, traînant sa vie, puisqu'il ne la vit vraiment. Ne nous méprenons pas. La situation vécue par Élie dans le désert et ses sentiments qu'il développe, comme ceux qu'il peut arriver que nous connaissions, ne sont pas de bonnes choses, ni des choses intrinsèquement normales, mais ce sont des moments que nous pouvons connaître et qu'il nous faut identifier en nous-mêmes, qu'il nous faut chercher à comprendre pour en sortir avec notre Dieu, ce Dieu qui nous aime. Troisièmement, la cause, les causes de l'état moral d'Élie ou pourquoi es-tu là, Élie ? Réfléchissons à cette question de Dieu. Nous réfléchissions à cette même question il y a quelques semaines lorsque Dieu la posait à Adam. Où es-tu ? Pourquoi es-tu là, Élie ? Cette question que Dieu pose à son prophète, elle ne concerne pas seulement ou essentiellement sa situation géographique. Élie est dans le désert. Elle concerne avant tout la disposition morale d'Élie. Élie, où en es-tu ? Que t'arrive-t-il ? Dieu interroge Élie. Il l'oblige à réfléchir sur ce qu'il vit et ressent en lui-même. Il l'oblige à expliquer ce qui se passe en lui. Et Élie parviendra à exprimer ce qu'il ressent dans le fond de son cœur. Il dit ces choses émouvantes. « Je t'aime tellement, Seigneur, je t'aime tellement que je ne peux supporter de voir comme les Israélites te traitent, toi et tes prophètes. Je suis resté seul, j'ai échoué et ils veulent me tuer. » Élie n'est pas seulement fatigué ou déprimé ou découragé. Il ressent profondément la situation de son peuple, cette désobéissance envers Dieu, les horreurs vécues et la solitude dans laquelle il se trouve à cause de cela. Sa souffrance, elle est morale et spirituelle plus que physique ou psychologique, même si son état général contribue à produire toutes ces pensées négatives. Il semble qu'Élie ne regarde plus comme il faudrait à son Dieu, à ses promesses, à sa force. Mais il regarde plutôt à sa faiblesse à lui, et à la force de l'adversaire. Il est un peu comme Pierre, marchant sur les eaux, allant à la rencontre de Christ, et qui détourne son regard de Jésus, et regarde au flot menaçant, et commence alors à s'enfoncer en paniquant. Jusque-là, Élie regardait à Dieu, cherchait en Dieu seul sa force. Soudain, il est frappé de terreur. Il s'enfuit, craignant sa vie. Il se retrouve seul, voit sa mission échouée, il se pense en échec, il ne pense qu'à la révolte du peuple. Il se persuade d'être seul à tenir bon pour le Seigneur et il n'y arrive plus. Il n'est pas loin de penser peut-être que Dieu a perdu sa puissance. Et il souffre car il aime le Seigneur. Il souffre au point de souhaiter mourir. Êtes-vous découragé ? Êtes-vous à terre ? Êtes-vous, même seulement un peu, comme Élie, découragé, persuadé de votre échec dans votre vie chrétienne, dans votre vie tout court ? Vous avez lutté, vous avez cherché à vivre pleinement en tant que chrétien, vous avez voulu témoigner. Mais l'Église, vous vouliez la servir, vous vouliez remplir les tâches de votre mission de témoin et d'ambassadeur de Christ. Vous avez cherché depuis des mois, des années peut-être, à dominer telle faiblesse de votre caractère, de votre personnalité. Vous avez cherché à vous débarrasser de tels défauts, de tels comportements. Vous avez résisté à la tentation pour presque toujours finir par y céder et recommencer le même combat jusqu'à cet épuisement, ce découragement. À quoi bon ? À quoi bon ? À quoi est-ce que je sers ? Qu'est-ce que j'ai réussi ? À quoi est-ce que j'apporte vraiment quelque chose ? À qui est-ce que j'apporte quelque chose ? Alors, Seigneur, oui, je t'aime. Je voudrais t'être utile, mais à quoi est-ce que j'arrive ? Dans le fond de mon cœur, je sais mes limites, mes défaillances, mes échecs. Je souffre de ce que je vois à l'extérieur et je souffre, oui, dans cette société où ton nom est méprisé. Je souffre ayant l'impression d'être seul ou presque à résister au courant du monde. Et je souffre parfois, peut-être, dans ce combat intérieur où je me sens seul aussi, seul avec les faiblesses qui sont les miennes, seul avec mes blocages, mes peurs, mes lacunes, mes fautes. Je n'y arrive pas, je n'arrive pas à vivre comme je le voudrais. Si souvent l'expérience qu'évoque l'apôtre Paul est aussi la mienne, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je hais. Mais quand je pense à cela, je me dis oui, mais c'est l'apôtre Paul, quand même, ce que lui a pu faire. Tous ses écrits, toute son œuvre. Et moi, que suis-je et qu'ai-je fait ? Difficile de ne pas se sentir en échec. C'est en moi, parfois, qu'il y a eu ces victoires de l'adversaire. Ils ont rompu ton alliance, ils ont tué tes prophètes, ils cherchent à me tuer. Qui cela ? Par ces esprits dont Paul encore parle aux Éphésiens. Pourquoi en es-tu là ? Nous demande parfois notre Dieu. Seigneur, j'en ai assez. Je suis découragé. Je ne réussis pas, tu le vois, à vivre dans ce monde en témoin victorieux de Christ. Ses ennemis sont trop forts pour moi. Je ne réussis pas non plus, comme je le voudrais, à vivre en moi-même victorieusement, à être conforme à tes souhaits pour moi. Seigneur, je me sens si inutile, si nul, si vide. Mes amis, j'espère que ces sentiments ne sont pas ceux qui nous habitent le plus souvent. Mais il peut nous arriver, il nous est sans doute arrivé de ressentir cela. Et peut-être les plus âgés ou les plus expérimentés dans la foi diront-ils avoir connu cela assez souvent. Irons-nous jusqu'à suggérer que si jamais nous ne connaissons ces passages-là, il y a matière à avoir quelque inquiétude. Sommes-nous alors conscients des réalités du monde qui nous entoure ? N'y sommes-nous pas trop à l'aise ou suffisamment conscients de nos faiblesses propres ? Si nous connaissons ces passages difficiles, douloureux, à nos raisons et circonstances multiples et variées, comment réagissons-nous ? En restons-nous à notre désespoir ou savons-nous écouter notre Dieu qui nous parle ? Savons-nous entendre ce qu'il veut nous dire ? Les encouragements de Dieu. Élie, quelle honte ! Que fais-tu là ? Tu désertes ton poste. Argumentons ensemble. Voyons, Élie, tu te trompes, tu me déçois. Repars tout de suite vers Akab et Jézabel. Dieu ne dit aucune de ces choses à Élie. Il agit bien différemment. Il envoie tout d'abord un ange vers Élie, porteur de pain, d'eau, de sommeil, de bon sommeil. Et d'encouragement tout simple. Mange, dors, mange et bois et redors un peu et remange. Voilà ce dont Élie a premièrement besoin, un repos, la paix, se restaurer physiquement et nerveusement. Et Dieu pourvoit à ses besoins simples mais indispensables d'Élie. Quelle affection de Dieu pour son serviteur dans ses pains cuits et dans ce pot d'eau. Quelle affection de Dieu aussi dans sa patience. Dors, mange, bois. Dieu donne le temps à Élie pour se relever. Puis vient cet ordre, va vers ma montagne sainte. Ensuite seulement, quand Élie déjà aura, au cours de ce long voyage, pu commencer à réfléchir, Dieu va questionner son enfant, puis se révéler à lui. Dieu en effet révèle quelque chose de lui à Élie dans ce passage si beau. Dieu n'est pas dans le vent en tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais quelque peu dans le léger souffle qu'Élie entend et reconnaît comme de Dieu. Après ces révélations, Élie se voit donner sans reproche une nouvelle mission par son Seigneur. À nouveau, Dieu sera avec son prophète et lui donne cette assurance. « Tu ne seras pas seul, car tu n'es pas seul avec moi et avec toi. Il y a 7000 hommes qui sont à moi. » Tu vois, toi qui te croyais seul. Résumons l'attitude de Dieu vis-à-vis d'Élie. Il le restaure, il lui redonne les forces premièrement nécessaires, puis il le questionne, il écoute sa souffrance, son doute. Il se révèle ensuite à lui pour l'encourager à nouveau. Rappelle-toi qui est ton Dieu. Rappelle-toi qui est ton Dieu. Enfin, l'ayant restauré, renouvelé, il le renvoie à son service avec cette belle promesse, cette réalité, non pas nouvelle, mais qu'il y a besoin d'entendre à nouveau. Tu n'es pas seul. Dieu n'agit pas autrement avec nous lorsque nous sommes un peu comme Élie, épuisés, découragés, déprimés, persuadés de nos échecs, de notre nullité. Non pas des reproches, non pas des moqueries, non pas un rejet, non pas une punition de Dieu. Dieu ne s'adresse jamais à nous comme cela. Et toi, le minable, jamais. Et pourtant, jamais comme cela, parce que Dieu nous aime. Il s'adresse à nous, il nous demande, pourquoi es-tu ici? Pourquoi en es-tu là? Pourquoi dans cet état? Parce qu'il se soucie de nous, nous veut heureux et engagés avec lui dans le plus beau combat qui soit, le combat de la foi, le combat de la vie avec Christ. Avant même de nous questionner, de se révéler à nous encore, Dieu poursuit, pourvoit à nos besoins, nous restaure, nous donne les encouragements nécessaires. Est-ce du pain, de l'eau que Dieu nous donne, avec du sommeil, un bon sommeil, oui, parfois, et cela fait du bien. Et puis d'autres choses, bien sûr, l'affection fraternelle, des exaucements de prières, de petites attentions touchantes, des sourires de Dieu, des protections, des soulagements de nos inquiétudes, des réponses à nos prières, et tant d'autres choses excellentes. Comme avec Élie, Dieu est patient avec nous. Il tient compte de notre état, de nos possibilités. Comme avec Élie, il nous invite à réfléchir au pourquoi de notre sentiment d'échec, au pourquoi de notre abattement. Comme pour Élie, il se révèle toujours à nous, comme tout à nouveau dans sa parole, quand nous la lisons d'un œil neuf, prête à l'écouter, cherchant à la comprendre. Il se révèle à nous dans l'Église, dans la fréquentation des frères et sœurs, ou comme parfois Dieu nous parle par nos frères et sœurs, par nos amis. Il se révèle à nous dans la nature, dans le ciel étoilé, dans la forêt, dans la nature. Il se révèle, enfin, toujours plus, et cela est essentiel, lorsqu'un aspect de Christ nous est rappelé, présenté, que nous n'avions pas peut-être discerné pleinement jusque-là, ou que nous avions oublié, ou dont nous avions besoin que cela nous soit rappelé à nouveau. Ainsi, des bienfaits de la réflexion de dimanche dernier sur Christ, le pasteur des brebis, Christ, notre pasteur. Comme pour Élie, enfin, Dieu nous affirme nous vouloir toujours dans le service pour lui. Nous ayant relevé, il nous envoie avec cette belle assurance que nous non plus, nous ne sommes pas seuls. Entendons-nous ce que Dieu nous dit lorsque nous ressentons comme Élie le désarroi, le doute, le découragement. Dieu est par excellence le grand consolateur de ceux qu'il a choisis et qu'il continue d'aimer envers et contre tout. Nous conclurons rapidement. La vie du croyant s'inscrit dans la réalité humaine, dans la réalité de ce monde, dans la réalité du combat spirituel pour Dieu. Tout n'y est pas facile. Et le chrétien, comme Élie et tant d'autres, peut passer par des moments d'épreuve, de doute, de découragement. À cause des épreuves difficiles, douloureuses, angoissantes, à cause de la faiblesse humaine qui demeure chez le croyant comme en chaque homme. Mais Dieu est là pourtant. Il est celui qui vient pour relever, pour encourager, pour restaurer et appeler de nouveau son enfant aimer à œuvrer avec lui pour le bien, pour la gloire, pour la vie. Apprenons à ne pas juger nos frères et sœurs qui passent par des moments d'épuisement. Apprenons plutôt à les aimer, les entourer, les encourager. Et apprenons à écouter Dieu quand nous-mêmes connaissons un tel découragement. Dieu continue de nous aimer, de nous vouloir avec lui et avec nos frères. Apprenons à regarder à Dieu et à Christ par l'Esprit, plus qu'à nous-mêmes ou qu'à l'adversaire. C'est Dieu qu'il nous faut regarder, rechercher, regarder encore et écouter. Il se révèle toujours à nous. Vivons de cette révélation dont nous pouvons dire qu'elle est pour nous tellement plus complète que celle même d'Élie. Quel privilège! Dieu, non pas dans la tempête, non pas dans le tremblement de terre ou le feu, non pas même dans ce souffle léger, mais dans sa parole, le Fils de l'homme, notre Sauveur, notre frère, celui qui, avec nous, marche, Jésus-Christ. Relevons-nous, mes amis, et avec lui marchons vers la vie éternelle.